Bien, alors écoutez, si cette présentation est bonne, vous le devez à mon fils Michael qui travaille à Bordeaux et à qui je la dédie, puisque c'est à cause de lui que je suis ici. Je voulais lui rendre visite. Et en passant, on a dit à Mola, ben, on peut faire une présentation. Donc, il nous accueille. Voilà. Et j'ai publié en octobre un livre qui s'appelle Islam, phobie, culpabilité aux éditions Odile Jacob. Et j'ai publié en février un livre qui s'appelle Fantasme d'artiste, un essai sur l'art contemporain. Et je dois vous avouer que je les ai écrits en même temps et je voulais qu'ils paraissent en même temps. Mais le commercial en a décidé autrement. Il paraît qu'il faut laisser aux gens le temps de je ne sais pas quoi. Et j'ai voulu qu'ils paraissent en même temps car je savais qu'il y aurait une très forte censure sur le livre Islam Phobie. C'est un point chaud, paraît-il. Alors que j'analyse le problème en des termes très serein. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis né à Marrakech et j'y ai vécu jusqu'à 13 ans. Je parle l'arabe, je lis le Coran en arabe, j'ai écrit sur les monothéismes. Et là, avec ce livre, j'ai soulevé un problème qui me paraît crucial. Et donc, bien sûr, j'aimerais vous dire quelques mots avant de passer au livre sur l'art contemporain. Ça vous va? Oui. Alors, pardon? Voilà, vous découvrez. Et donc, ce livre-là sur Islam, phobie, culpabilité, il part d'un constat. Et que j'ai fait, qui est que dans les textes fondateurs de l'islam, dans le Coran, il y a des choses très violentes envers ce qu'il appelle les gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Ça veut dire qu'ils sont maudits par Allah et ils sont traités de, voilà, pervers, faussaires, etc. Et en fait, cette violence a été modulée au fil des siècles par une certaine convivialité. Parce que moi, j'ai vécu en pays arabe, on n'était pas insulté tous les jours, loin de là. Et on a su créer des convivialités très riches, très intenses, des fraternités aussi, des liens. Mais je constate que dans le contact de l'islam avec l'Occident, notamment avec l'Europe, cette partie, c'est disons cette violence fondatrice, est occultée et cachée. Je vais vous en donner un ou deux exemples. J'ai fait un soir une conférence avec un physicien qui est aussi musulman, qui fait la télé le dimanche matin, et c'était sur violence et islam. Et il a commencé en disant, il n'y a aucun rapport entre l'islam et la violence terroriste. J'ai dit, et il dit, en vertu d'un verset du Coran qui dit, ne tuez pas l'homme que Dieu a sacré. L'homme, c'est sacré. J'ai demandé quelle était la sourate et le verset, car je connais très bien le livre. Donc je l'ai eu, j'ouvre le livre et je lis. Ne tuez pas l'homme que Dieu a sacré, sauf pour une cause juste. Et je lui ai dit, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, il y a eu un silence. Un silence qui m'a ému, parce que j'ai senti qu'il était coincé entre l'hypothèse qu'il faisait, à savoir que les autres, ignorants que nous sommes, n'iraient pas regarder. Le désir de cacher ça parce que c'est pas très présentable, et le désir de liberté, qui habite tout un chacun et qui l'habitait lui aussi. J'ai, même récemment, à propos des caricatures de Mahomet, j'ai été très surpris de lire dans des journaux, sous la plume d'écrivains reconnus comme Ben Jeloun, que, bien sûr, il y a la liberté d'expression, il n'est pas question de revenir là-dessus, mais fallait-il faire des caricatures pour jeter de l'huile sur le feu? Alors je me suis dit, mais si le feu couve depuis des siècles et se transmet, car cette vindicte, cette violence originaire se transmet, et ça veut dire qu'il faut sacrifier cette liberté d'expression pour ne pas paraître gêné, et certains musulmans. Je dis certains parce que beaucoup d'entre eux veulent sortir de ce cadre identitaire, et là, c'est là que commence le vrai problème que je traite dans ce livre. Le vrai problème que je traite dans ce livre, c'est pourquoi y a-t-il un silence sur ce fait? Pourquoi ce fait est couvert de secrets? Et là, j'ai découvert un concept que j'appelle la culpabilité narcissique, c'est-à-dire le fait de se sentir en faute envers l'autre pour prendre du pouvoir sur lui. Comprenez, comme quelqu'un dans une scène de famille comme ça, ça se bagarre, et puis quelqu'un vient dire « tout ça c'est de ma faute ». Il dit « mais non, tu n'étais pas là, on ne t'a pas remarqué ». Si, tout ça c'est de ma faute. Et la personne couvre les autres de sa responsabilité, du coup c'est elle qui est chargée de résoudre leurs problèmes. Et en l'occurrence, ça se traduit par un véritable silence. Donc cet article de Ben Jeloun se terminait. En fait, les caricaturistes n'ont pas pu atteindre Mahomet parce que Mahomet est une transcendance. Moi, je pensais que c'était un homme, mais justement, ça veut dire que quelqu'un de très éclairé, très sérieux, etc., et participe d'une sorte de front de l'intouchable, du tabou. Or, hier, j'ai appris des choses nouvelles sur ce problème. Hier soir, j'ai fait une présentation de ce livre à Toulouse, à la librairie Ombre Blanche, et avec un présentateur qui est un sociologue musulman de Marrakech, un type très sympathique, et qui avait eu l'initiative de faire ce débat. Et j'ai remarqué que quand je citais en arabe les versets du Coran en question, dès que je commence à les citer, il les continue. Ça veut dire qu'ils sont connus. Ça veut dire qu'on a carrément chez certains une sorte de duplicité. C'est-à-dire, ils savent que ça existe, mais si quelqu'un le dit, quelqu'un d'autre, un étranger le dit, ça passe pour une insulte, alors que c'est juste un questionnement. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et en fait, l'objet du livre, et je ne vais pas m'étendre trop longtemps là-dessus, l'objet du livre, c'est d'explorer des passages, des issues possibles de cette impasse. Car c'en est une. Et je vais vous en donner des formes. Et donc je m'intéresse aussi à la culture européenne, à la culture française, qui s'est drapée de cette culpabilité ou de cette mine pleine de contrition et de gravité. Et je vais vous donner des exemples qui m'ont touché. Un de mes amis a écrit un jour au ministère de l'Intérieur en demandant est-ce qu'il était normal qu'en France, on enseigne dans les écoles coraniques, car il y en a, des textes qui appellent à la haine de l'autre. Et il a reçu cette réponse intéressante. Nous sommes dans un état laïque et nous ne nous mêlons pas d'interpréter les textes religieux. Dans mon livre, je parle d'un arrêté du tribunal de Lyon qui a acquitté un imam parce que cet imam avait été attaqué par une association de femmes, l'accusant d'avoir dit qu'il fallait battre sa femme lorsqu'on la soupçonne d'adultère. L'imam a reconnu avoir dit cela, mais le juge a décidé qu'il ne faisait que commenter un texte religieux. Donc il l'a acquitté. J'ai reçu plusieurs mails à la suite de ce livre venant de musulmans qui, en fait, font partie de toute cette mouvance qui veut sortir du cadre. C'est comme ça que j'interprète les révolutions arabes. C'est un désir de respirer un peu loin de ce carcan. Et l'un de ces mails disait « C'est intéressant ce que vous dites sur le tribunal de Lyon, car moi-même j'ai eu des problèmes juridiques, ma famille a eu des problèmes, et on a eu affaire au tribunal. » Et quelle n'a pas été notre surprise de voir le juge venir avec le Coran sous le bras pour étayer sa décision. Et là, il y a quelque chose là qui touche. Derrière l'idée de respect, il y a peut-être un certain mépris. Ça veut dire, bon, et là j'ai appris aussi hier soir, donc je vous transmets du matériau frais, mais qui étaye mon livre, j'ai appris que depuis Giscard d'Estaing, qui avait décidé du regroupement familial des familles maghrébines, et il y avait une convention entre la France et les États arabes, notamment maghrébins, pour qu'ils envoient, exigeant, la France exige, qu'ils envoient des imams pour enseigner aux Maghrébins de France et à leurs enfants, les fondamentaux de la religion dans les consulats respectifs. Eh bien, je vous avoue que je l'ignorais. Et c'est intéressant. Je vous donne encore pour clore un dernier exemple et je vous dirai le problème que je résous dans ce livre, qui est un problème difficile que je vais énoncer. Comment peut-on changer le rapport à un texte sacré sans toucher au texte sacré? Car il n'est pas question de toucher au texte sacré, c'est-à-dire de le changer. On ne va pas dire on barre. Encore que j'ai appris aussi que dans certaines sectes musulmanes et un peu mystiques, des soufis, on s'interdit de lire ces versets dans les rituels. Ce qui est tout à fait intéressant. Et j'ai donc ce problème, et je pense le résoudre, en tout cas. Et hier, j'ai eu un exemple émouvant, ça m'a vraiment ému, parce que l'une des idées qui court dans le livre, mais très discrètement, c'est, et après tout, si les musulmans qui n'adhèrent pas à cette violence fondatrice, s'ils pouvaient faire une courte prière le vendredi, de 30 secondes, pour dire à Allah d'arrêter sa malédiction sur les juifs et les chrétiens. Ça se fait. De mon temps à Marrakech, on faisait des manifestations pour demander la pluie à Allah. Il ne répondait pas toujours, mais au moins on manifestait. Et donc, j'ai été ému hier soir de voir que mon compagnon, qui est aussi de Marrakech, avait écrit en arabe 5 lignes, une sorte de prière, qu'il a lue en arabe et qu'on a traduite. « Mon Dieu, Allah, ça se dit Allah, suspend ta malédiction sur cette assemblée où se trouvent des juifs et des chrétiens réunis avec des musulmans. » Je l'ai embrassé et je me suis dit, voilà, il a pigé quelque chose du livre. Mais la vraie solution que j'essaie de tracer dans le livre est différente. Et pour conclure là-dessus, il y a un souvenir qui m'est revenu et que j'ai un petit peu médité. Vous savez que j'ai écrit pas mal de livres et l'un d'entre eux s'appelle « Violence », une analyse de la violence, il y a déjà presque 20 ans. Et en écrivant ce livre, je discutais avec des profs qui me racontaient leurs problèmes avec leur classe de banlieue, ou même de banlieue. Mais et certains m'ont dit, une des profs m'a dit, voilà, et moi je suis très embêté, j'ai une classe qui est partagée en deux, une moitié d'arabes, une moitié de noirs, et ils se battent entre eux parce que les arabes reprochent aux noirs, tenez-vous bien, d'être les derniers venus à l'islam. Et les noirs reprochent aux arabes la traite des esclaves. Et elle me dit, qu'est-ce que je fais là-dedans, moi? Je lui dis, eh bien, tu es prof d'histoire, tu enseignes l'histoire. Et elle répond, de quel droit? Et là, j'ai été assez stupéfait. Ça veut dire qu'elle en oubliait qu'elle était payée pour ça, qu'elle touchait un salaire pour ça. Elle sent tellement son angoisse identitaire, tellement le fait, elle ne se sentait pas légitime à se poser face à ces deux identités et encore moins à instaurer avec chacune une sorte d'entre-deux dynamique qui fait que, à travers le conflit, l'engueulade, l'amitié, le désir réel de vivre, on trouve des choses, on trouve des passages. Et donc, il m'a semblé que cette démission, cette espèce d'indifférence, était quelque chose d'important à réfléchir, que c'était même peut-être un des symptômes de cette société où dès qu'il y a un conflit, dès que se pose un problème, que ce soit à propos d'islam, à propos de mariage gay, à propos de toutes sortes de choses, les personnes ont peur d'être taxées de soit islamophobes, soit homophobes, etc. Alors que les gens n'ont pas peur de l'islam, n'ont pas peur des homosexuels. Ils ont à la rigueur peur de leur homosexualité, et c'est leur droit de surveiller les lignes de refoulement. Mais il a peur d'être taxé, la peur d'être mal vu, la peur de voir précariser sa place. Vous verrez dans le livre, il y a un chapitre, la peur pour la place. La peur pour la place est un élément civilisationnel. Les places sont chères, vous savez, les places où il n'est pas évident qu'on soit là pour s'éclater, pour inventer, pour créer, puisqu'on commence bien souvent par vous casser pour que vous restiez bien en place et que vous ne vous déplaciez pas. Et donc, il m'a semblé que ce problème était important et j'ai donc écrit ce livre. Alors, fantasme d'artiste. Voilà, déjà, je vois des sourires et... Bon, voilà, je vais vous dire. Fantasme d'artiste est un livre qui est en fait... qui a complété une sorte de chronique, parce que j'ai écrit il y a 5 ans un livre qui s'appelle « Création, essai sur l'art contemporain ». Il est paru au Seuil. Et où j'analysais l'originalité de l'art contemporain par rapport à l'art classique ou moderne. Si vous voulez, en gros, l'art classique, l'artiste vous donne des nouvelles de son idéal, on va dire. Que son idéal soit la Vierge Marie ou telle scène idéale, etc. Et l'art moderne vous donne une vision vous exprime la vision que l'artiste a du monde. C'est-à-dire Picasso, voilà, c'est de l'art moderne, authentiquement moderne. C'est-à-dire Matisse, c'est de l'art moderne, les impressionnistes, c'est de l'art moderne. C'est-à-dire, ce sont des courants où les artistes posent leur, leur présence face au monde et nous transmettent le résultat, si je puis dire. J'ai mis quand même dans ce livre quelques petits textes sur des artistes modernes qui ne sont pas contemporains, comme Picasso, comme Chagall, un peu comme, Balthus, voilà, les trois. Et Louise Bourgeois, c'est un petit peu entre les deux, il y a du... Voilà, c'est un peu frontalier. Quelle est l'idée qui, selon moi, spécifie l'artiste contemporain ? Alors, l'artiste contemporain exprime ce que j'appellerais sa faille ontologique, c'est-à-dire sa présence au monde en tant qu'elle est marquée par telle ou telle cassure, tel drame, tel symptôme, etc. Je dirais qu'il est branché non pas sur un idéal ou sur le monde, mais sur l'être, c'est-à-dire sur le possible. L'infinité du possible, qui est presque angoissante, et où justement il attrape à travers des matériaux, il accroche des choses pour modeler cette faille qui le traverse, pour la modeler au moyen d'un outil qu'on appelle en psychanalyse le fantasme. Le fantasme, c'est pas « je fantasme sur elle, elle fantasme sur lui », etc. Le fantasme, c'est Baudelaire qui en a dit le plus pointu, et en parlant de l'imaginaire. C'est un véhicule qui se balade et qui vous transporte entre perception et mémoire, entre sensualité et souvenir, entre matérialité et immatériel. Et donc, il exprime ce fantasme et sur un mode dont il espère que ça va croiser le fantasme de l'autre, du public, du spectateur. Et le miracle, dans une œuvre contemporaine, que j'ai mise dans ce livre sous le signe « Rencontre de deux fantasmes ».« Rencontre de deux fantasmes » m'a paru être la notion juste pour décrire ce qui se passe devant une œuvre contemporaine, où on cherche non pas la vérité, ça c'est l'idée de Heidegger, qui est reprise par des épigones, où on cherche autre chose que la vérité. Quand vous êtes devant une œuvre contemporaine, vous ne dites pas c'est vrai, vous dites c'est fort, vous dites j'aime, vous dites ça me touche, vous dites c'est immonde, vous dites c'est bouleversant, etc. Autrement dit, vous exprimez quelque chose de votre affect qui vous amène vous-même à poser et à percevoir des questions existentielles qui sont les vôtres et celles de l'artiste. Je vais prendre quelques exemples pour que vous sentiez qu'on n'est pas dans le vide, parce que tout le livre est ponctué d'analyses d'œuvres et d'œuvres actuelles, contemporaines. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu des Monumenta au Grand Palais. Il y en a une qui m'a touché et que j'ai beaucoup analysée, c'est celle du sculpteur Richard Serra. C'était 5 plaques d'acier qui, de chacune 20-25 mètres, je crois, 75 tonnes, et 50 cm de large à peu près, assez épaisses, qui sont posées sur cette grande nef du Grand Palais, et l'œuvre s'appelle Promenade. Et vous entrez, vous vous promenez. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Eh bien, ce qui se passe, car c'est ce qui se passe qui est important, ce qui se passe est assez intéressant. D'abord, j'entre et je croise une sculpteur, une femme sculpteur. Elle me dit, ah, c'est incroyable, hein, toutes ces plaques différentes. Je lui dis, non, elles ne sont pas différentes, elles sont identiques. Je dis, ah bon, c'est incroyable. On approche de l'une, on la voit courbe. Je dis, tiens, c'est curieux, comme une épée, énorme. On s'éloigne, on cherche un point d'où on pourrait voir cette identité et on ne le trouve pas. C'est comme si vous cherchiez votre identité à la saisir, à la rassembler, à l'unifier, et vous ne trouvez pas. Et là, on touche au point contemporain. C'est-à-dire que l'art contemporain ébranle les identités. Contrairement aux religions qui essayent de rassembler des identités, de les compactifier, de les cerner, de les cadrer, l'art contemporain fait exploser, y compris l'identité de l'œuvre. Et parfois, d'une façon assez humoristique, assez moqueuse. Il y a une œuvre que le MoMA de New York a vendue assez cher à Beaubourg et qui est une œuvre qui n'existe pas. Et alors, en quoi elle consiste ? Ben, elle consiste en ceci, que le conservateur du MoMA fait le voyage de Paris, explique l'idée de l'artiste au conservateur, qui normalement devrait le payer en espèces, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de traces, mais quand même, il l'a payé en chèque. Et là, c'est la caricature, mais elle est intéressante. Et l'idée, c'est que cet artiste voulait qu'il y ait un groupe de 5 comédiens qui se réunissent et qui parlent de sujets importants, d'actualité, mais en citant une série d'auteurs que lui apprécie. Ça fait un peu 5 personnages en quête d'auteurs ou quelque chose de cet ordre. Et voilà. Donc l'œuvre n'a pas vraiment d'identité, puisque chaque fois qu'elle se produit, elle est différente de son exhibition précédente. Mais, voilà, je vous donne un autre exemple pour vous dire jusqu'où va cette obsession de ne pas s'enfermer dans une identité. Vous savez que Yves Klein, l'inventeur des monochromes, un beau jour, quand il était assez connu, il a fait 2 monochromes de la même couleur, absolument identiques, et les prix étaient complètement différents. On dit, ah bon ? C'est pareil. C'est pas pareil. Donc, et ça veut dire que ça jongle avec la différence dans l'identique, l'identité de la différence. Vous voyez, c'est une espèce de... Il y a tout un ensemble de flux thématiques qui, en réalité, et c'est ça qu'il y a, que moi j'aime, voilà, je vous le dis, qui en réalité traverse les problèmes existentiels des individus, qui sont des problèmes d'identité, comme on vient de le voir, des problèmes de nom propre, des problèmes de représentation, des problèmes de reconnaissance, des problèmes, et des problèmes évidemment d'obsession, de symptômes. Et là, on rejoint des artistes actuels, mais qui ne sont pas toujours dans cette veine contemporaine. Notamment, j'analyse toute une rétrospective de Balthus. Et vous savez que Balthus était pathétique, parce que lui, son symptôme, mais il fallait que je me dérange pour voir les dernières photos du personnage pour mieux comprendre cette chose. Son obsession, c'était non pas le féminin, mais le point d'éclosion du féminin chez l'adolescente. Le point où le sexe, comme un bourgeon, voilà, apparaît et finalement appelle au viol, mais un viol qu'il retient. Et donc, voilà, il a répété ça toute sa vie, au grand désespoir de ses premières compagnes, à la grande satisfaction de sa dernière compagne japonaise, qui, elle, m'expliquait que ça ne la gênait pas de voir défiler toutes ces jeunes filles, puisqu'elle partait. Donc, elle venait faire l'examen de féminité, puis repartir, la laissant, elle, maîtresse des lieux. Et j'ai vu dans la dernière photo de Balthus une amertume dans son regard, comme si il avait fait le tour de son œuvre et s'était dit, mais au fait, j'ai fermé une boucle, pourquoi je n'ai pas ouvert une autre boucle ? C'est un peu Rothko. Rothko aussi a ouvert une boucle magnifique avec ses tableaux spirituels et incandescents de couleurs. Et puis, il a continué jusqu'au moment où le tableau est devenu gris. Et au lieu d'avoir trois blocs multicolores l'un sur l'autre, on a eu une ligne d'horizon avec du gris foncé sur du gris clair. La Terre perdue dans le cosmos. Et ensuite, s'est suicidé. Pourquoi n'a-t-il pas trouvé le ressort pour repartir comme un astre qui a bouclé son orbite et qui tombe au lieu de repartir sur une orbite différente? Là, c'est la question de la création. Et c'est exactement ce qui est au cœur de ce livre-là. C'est quel est le processus de la création dans l'art contemporain. Et là, j'avance un certain nombre d'idées, notamment qui contredisent beaucoup d'idées reçues sur l'art contemporain. Je vais vous donner un exemple, l'idée de la beauté, par exemple. On dit que les artistes contemporains, ils s'en foutent de la beauté, ils sont contents quand on dit c'est vraiment moche. D'ailleurs, ils en rajoutent pour que ça soit encore plus moche. Eh bien, la mocheté, ça pose la question de la beauté, même si c'est à l'envers. Ça veut dire qu'en réalité, ça m'a amené à une réflexion sur ce qu'est la beauté. Et j'ai proposé une définition. J'ai dit que la beauté, c'est une somatisation de l'amour. Ça veut dire que quand vous êtes stressé, que vous somatisez, vous avez un bouton. Et quand vous êtes enamouré ou couvert par l'amour, vous somatisez, vous avez de la beauté. Et quand l'amour est passé, vous retrouvez votre état normal. Et cette question de la production de la beauté, c'est-à-dire de l'émergence de la beauté comme événement, et non pas comme conformité à un modèle ou à un idéal, c'est quelque chose d'essentiel. Pour moi, parce que si on se place du point de vue de l'être, c'est-à-dire de l'infinité des possibles, ce qui m'intéresse le plus, c'est quand l'être fait événement. C'est ce que j'appelle l'événement d'être ou la secousse d'être. Et qu'est-ce qui fait que ça cogne, ça attrape quelque chose? Je vais vous prendre une petite œuvre sculpturale que j'analyse dans le livre, qui est une échelle. Que j'ai chez moi, une échelle avec deux montants et en béton assez grossier, l'un peint en bleu, couleur de ciel, et l'autre en argile, couleur de terre. Et puis l'échelle métallique les traverse, elle vient on ne sait pas d'où, elle va on ne sait pas où. Pensez moins l'infini plus l'infini. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Et j'ai parlé avec le sculpteur, et il m'a dit, ça c'est une échelle de Jacob. J'ai dit, mais c'est passionnant ça, parce que l'échelle de Jacob dans la Bible, elle est posée sur la terre, elle a la tête au ciel, et l'être divin la surmonte en quelque sorte, et il y a des messagers, des porteurs d'être, qui vont et qui viennent. Sauf que là, l'artiste, il lui a fait faire un quart de tour. C'est-à-dire un quart de tour mental, pas géométrique. Il l'a inversé. Ça veut dire que vous êtes non pas sur une échelle posée sur le sol et qui va vers le ciel, mais vous marchez sur l'échelle de votre vie, pas à pas, en ayant chaque fois le ciel d'un côté, à droite, la terre à gauche, ou l'inverse, si vous êtes de l'autre côté. Eh bien, pouvoir marcher dans sa vie en ayant le ciel et la terre de part et d'autre des pas que l'on fait, ça, c'est un passage que je trouve inspiré, superbe. Et c'est d'une simplicité confondante. Et il y a évidemment des tas d'autres œuvres que j'analyse. Par exemple, il y en a une qui m'a bouleversé, dont vous avez dû voir le film, qui est celle de Marina Abramović. Vous savez, au MoMA, une performance où elle est assise sur un fauteuil. Il y avait une table au début, puis ils l'ont enlevée. Elle est habillée d'une robe blanche ou rouge, ça dépend des... Et puis, en face d'elle, un fauteuil, une chaise, où viennent s'asseoir à tour de rôle des personnes du public. Et c'est tout. C'est comme pour la sculpture de Serra, c'est tout. Et dans ce « c'est tout », il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a tout le fantasme de la rencontre qui hante notre époque. Je suis même stupéfait que nos grands-pères psychanalystes n'aient pas fait des bouquins sur la rencontre. Moi, je ne rencontre que des gens qui ont du mal à rencontrer. À rencontrer un travail, à rencontrer un homme, une femme, à rencontrer du possible, à se rencontrer eux-mêmes, évidemment, et qui se demandent pourquoi. Et là, vous avez quelqu'un que vous allez rencontrer. Et il se passe, les gens qui s'assoient, je peux vous dire qu'ils sont sous une décharge de présence qui doit être assez cognée parce qu'ils ne tiennent pas plus d'une minute, une minute trente, alors qu'ils ont tout le temps. Et avec des improvisations, ceux qui l'ont vu, où vient s'asseoir l'ex de la sculpteur avec qui elle venait de rompre, etc. Et donc, la rencontre de bribes de votre histoire. La rencontre, c'est voilà, une idée. C'est pour vous donner... Là, vous savez, j'ai commencé, moi, comme chercheur en mathématiques. Voilà. Et déjà, j'étais passionné par cette question. Comment une idée s'articule à une autre idée? Vous savez, vous avez une idée. Très bien. Ou bien vous vous noyez dans cette idée comme une mouche dans le miel. Ou bien... vous allez vers une autre idée qui va vous emmener encore ailleurs, etc. Et c'est ça, penser. Penser, c'est marcher sur cette échelle. Et si vous avez la terre et le ciel des deux côtés, c'est bon. Si vous avez aussi vos deux parents, c'est pas plus mal. Si vous avez vos deux cultures, ou vos deux langues, ou vos deux origines, c'est pas plus mal non plus. Et donc, vous avancez et... vous ne savez pas ce qui fait que l'idée juste s'impose. La justesse fait qu'une idée tombe et c'est celle-là et pas une autre. Et c'est celle-là qui portera l'œuvre, qui ponctue l'œuvre et qui donne tout son sens à la démarche qui a précédé. Là, c'est un exemple, cette idée de marcher comme ça, ou cette idée de rencontre. Et c'est une idée bouleversante. Vous connaissez une autre performance de cet artiste qu'elle avait présentée à Art Basel il y a plusieurs années, où elle était nue, allongée, en larmes, avec des gouttes, et avec sur elle un squelette. Il y a des gens qui ont dit « c'est la nouvelle Pietà du 21e siècle ». Et voilà, c'est une femme qui a sur elle un squelette. Après tout, c'est une façon aussi de questionner. Quelle sorte de corps j'ai sur moi quand je suis allongé? Voilà. Quel est mon autre? Peut-être qu'elle, c'est la mort qui la hante, ou le squelette d'on ne sait qui, mais c'est un exemple de ce que j'appelle des points critiques de la vie. des points existentiels brûlants qui font que le spectateur et l'artiste se rencontrent dans ce point de contact où les deux fantasmes attrapent quelque chose qui est de l'ordre de l'être, de l'ordre d'un certain réel. Et c'est là que l'art rejoint tous les courants de l'art de tous les temps, y compris l'art des cavernes, à savoir atteindre cette espèce de frontière de l'humain sans laquelle l'humain serait totalement égaré. Atteindre cette limite qu'on appelle parfois le divin et qui est aux confins de l'humain, qui est la signature de l'autre scène, de l'autre monde, d'où l'autre nous parle.